Je vous souhaite un très bon réveil. Voici le journal de Fiona Mogadam. Bonjour Fiona.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des Pâques sanglantes au Sri Lanka. Les attaques visant des églises et des hôtels hier ont fait 290 morts, plus de 500 blessés selon un nouveau bilan communiqué par la police. 13 personnes ont été arrêtées. Les précisions dans un instant.
Et c'est sans grande surprise que le comédien Volodymyr Zelensky, qui a remporté l'élection présidentielle en Ukraine, a été élu, donc une large victoire, mais les défis vont être nombreux pour le nouveau président. Reportage à suivre.
Les discussions sont terminées au Soudan entre le mouvement de contestation et le pouvoir militaire. Les manifestants réclament la mise en place d'un pouvoir civil sans plus attendre. Après 5 mois de crise des gilets jaunes, les mesures qu'annoncera Emmanuel Macron jeudi vont-elles apaiser la colère? Ce n'est pas dit au vu des réactions recueillies dans le cortège parisien lors de la manifestation de samedi. Une messe particulière hier pour les catholiques et fidèles de la cathédrale Notre-Dame, c'est à l'église Saint-Eustache à Paris qu'ils se sont retrouvés. Parmi eux, l'organiste de Notre-Dame qui a pu jouer lors de cette messe. La question du jour en ce lundi de Pâques, Guillaume Erner.
Eh bien, on va revenir sur les attentats qui ont ensanglanté le Sri Lanka. Nous serons en ligne avec Anne-Clémentine Larocque. Elle est maître de conférences en questions internationales à Sciences Po.
Et le bilan s'est donc à nouveau alourdi au Sri Lanka. 290 personnes ont été tuées, 500 blessées dans plusieurs attaques hier qui ont touché des églises lors des messes de Pâques et des hôtels de luxe dans la capitale du pays. 13 hommes ont été arrêtés par la police sri lankaise. Ils sont soupçonnés d'être en lien avec ces attentats qui n'ont pas été revendiqués. La police a également désamorcé une bombe artisanale aujourd'hui sur une route qui mène au principal terminal de l'aéroport de Colombo où ont eu lieu ces attaques. Et ce matin, la vie reprend tout doucement dans le pays. Antoine Guinard.
La vie revient peu à peu à la normale au Sri Lanka. Le couvre-feu imposé dimanche soir dans tout le pays a été levé ce lundi à 6h, heure locale. Et l'enquête progresse. Une vingtaine de suspects ont été arrêtés pour leur rôle dans les attentats et interrogés par la police selon les autorités sri-lankaises. D'après le ministre sri-lankais de la Défense, tous les suspects feraient partie de la même organisation extrémiste religieuse. Le ministre n'a toutefois pas donné plus de détails afin d'éviter d'attiser les tensions dans le pays. Une camionnette blanche qui aurait servi à transporter des suspects à Colombo, la capitale, où se sont produites 6 des 8 explosions, a également été interceptée. Dimanche soir, un engin explosif artisanal a également été retrouvé à proximité de l'aéroport de Colombo. Le premier ministre sri-lankais Ranil Wickremasinghe a déclaré que la police avait obtenu des renseignements sur des attentats imminents dans les jours qui ont précédé ces explosions dans des hôtels de luxe et des églises, mais que son cabinet n'en avait pas été informé et qu'il n'avait ainsi pu agir pour les faire avorter. Une majorité de Sri Lankais et une trentaine d'étrangers ont été tués dans ces attentats, les plus meurtriers depuis la fin de la guerre civile en 2009.
Antoine Guinard au Sri Lanka pour France Culture. C'est une victoire pour le moins écrasante en Ukraine pour le comédien Volodymyr Zelensky. Il a remporté l'élection présidentielle avec 73% des voix, selon des résultats quasiment définitifs, face à l'ancien président Petro Poroshenko, sanctionné en raison des scandales de corruption incessants et des difficultés économiques de son pays. Petro Poroshenko, qui a reconnu sa défaite mais a promis de poursuivre son combat. Le plus dur commence pour le nouveau président Claude Bruyot.
Le novice a écrasé l'animal politique. Mais alors que le triomphe lui tendait les bras, Volodymyr Zelensky a fait hier soir de la sobriété. Et à l'inverse, au bord de l'humiliation, c'est un Petro Poroshenko ultra combatif qui a carrément déjà lancé sa campagne des législatives. Jamais il ne faut lâcher. Jamais. Jamais. Je veux dire fermement que je vais rester dans la politique. Mais avant de nouvelles joutes, la présidence va changer de main. Et la majorité des Ukrainiens, usés par le partage du pouvoir entre oligarques et politiciens, s'impose aujourd'hui une leçon de vigilance vis-à-vis de celui qu'elle vient d'élire. Olga Bouchma, politologue rattachée à l'université Shevchenko de Kiev.
C'est une leçon pour nous de développer notre culture politique et de comprendre qu'on est responsable pour qui on choisit. Mais ce n'est pas la fin quand on choisit quelqu'un. Il faut suivre ce qu'il fait. J'espère va sortir beaucoup plus renforcé et expérimenté.
Dans une Ukraine coincée entre le conflit du Donbass, les tensions avec la Russie et une situation économique très difficile, les premières décisions de Volodymyr Zelensky seront déjà déterminantes.
Claude Bruyot à Kiev pour France Culture. Élection présidentielle en Macédoine du Nord également. Le second tour s'annonce indécis. La participation a été était très faible hier pour le premier tour de cette élection. 41%, c'est le plus faible taux depuis l'indépendance du pays en 1991. Le candidat des sociaux-démocrates Stevo Pendarovski et la candidate de droite Gordana Siljanovska Davkova sont au coude à coude, respectivement à 42,63% et 42,39% des suffrages. Le mouvement de contestation au Soudan n'entend plus discuter avec les militaires. Ses responsables ont annoncé hier la suspension des discussions et appellent à intensifier les manifestations pour la mise en place d'un pouvoir civil. Le conseil militaire, mis en place après la destitution du président Omar el-Béchir, est pour les contestataires un prolongement du régime. Nabil Amel.
Ce week-end, les leaders de la contestation soudanaise étaient décidés à annoncer la constitution d'un conseil civil, une instance chargée de former un gouvernement de transition qui durera 4 ans et sera suivi d'élections. Cela devait se faire au cours d'une conférence de presse hier soir, mais cette annonce a été reportée de quelques jours. Un peu plus tôt, le général qui préside le conseil de transition militaire promettait dans une interview de donner, dans la semaine, une réponse aux demandes des manifestants. Certainement pas la réponse qu'ils attendaient, puisque le haut gradé lançait déjà l'idée d'une instance provisoire composée de civils et de militaires comme issue possible à la crise qui secoue le pays. Les deux parties s'étaient pourtant rencontrées. L'un des représentants de la contestation n'a pas caché que les échanges lui paraissaient positifs, mais il reproche aux militaires de se conduire comme il le faisait auparavant, en clair de représenter le prolongement du régime d'Omar el-Béchir. L'opposition a donc claqué la porte. Et non seulement elle suspend les discussions, mais elle appelait hier soir à maintenir et à intensifier les sit-ins devant le ministère de la Défense pour obtenir un transfert sans délai du pouvoir à un gouvernement civil. Un nouveau bras de fer politique en perspective entre une opposition qui cherche une cohésion pour l'étape future et un gouvernement militaire de transition qui vient de recevoir un soutien financier important de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis.
Carlos Ghosn a de nouveau été inculpé par la justice japonaise pour abus de confiance aggravé. C'est la 4e mise en examen de l'ancien PDG de Renault-Nissan sur des accusations de détournement de fonds du groupe Nissan. Sa garde à vue arrive à terme aujourd'hui. Ses avocats vont demander sa remise en liberté sous caution. Deux jeunes hommes interpellés dans l'enquête sur la mort d'une journaliste en Irlande du Nord ont été relâchés par la police hier soir. La police qui lance un nouvel appel à témoins. Lyra Mackie a été tué par balle jeudi soir à Londonderry pendant des émeutes. Un homme a ouvert le feu contre des policiers qui intervenaient dans le quartier catholique de Londonderry.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Fiona Mogadam, dont l'actualité également ce matin, cette enquête ouverte par le parquet de Paris.
Après des slogans appelant les policiers à se suicider lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris, « Suicidez-vous », ont scandé certains manifestants parmi les 9000 qui participaient à cette 23e journée de mobilisation. L'enquête a été ouverte pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion. Des slogans condamnés par les syndicats de policiers et la classe politique dans son ensemble. Les gilets jaunes qui attendent les annonces d'Emmanuel Macron, les mesures qui font suite au grand débat national seront finalement annoncées jeudi par le président de la République. Une partie a déjà fuité dans la presse parmi celles qui seraient envisagées. La suppression de l'ENA ou l'indexation des petites retraites sur l'inflation. À première vue, elles semblent insuffisantes pour les gilets jaunes que vous avez rencontrés à Paris, Yann Gallic.
Les gilets jaunes ne se font guère d'illusions sur les mesures qui seront détaillées jeudi par Emmanuel Macron, à commencer par l'une des plus symboliques, la suppression de l'ENA, l'École Nationale d'Administration, une proposition sans intérêt selon Annie, retraitée de l'Éducation Nationale.
La suppression de l'ENA, j'ai entendu à aucun moment les gilets jaunes le demander. J'aimerais qu'ils commencent d'abord par répondre aux choses qui sont demandées.
Le président de la République veut également réindexer sur l'inflation les retraites en dessous de 2000 euros.
Les retraites moins de 2000 euros, mais est-ce que c'est pour une personne seule? Est-ce que c'est pour un couple? Parce que si c'est comme la fausse annonce, l'augmentation du SMIC qui n'en était pas une et qui ne bénéficie pas à tous les revenus, à tous les foyers, c'est scandaleux.
Emmanuel Macron serait prêt à mettre en place des RIC, des référendums d'initiatives citoyennes sur certains sujets d'intérêt locaux. Mais les gilets jaunes comme Arnaud veulent aller beaucoup plus loin dans la démocratie directe.
On ne veut pas de ça, on veut un RIC intégral. Qu'on puisse vraiment le peuple décider par soi-même. On veut que ce soit nous, le peuple, qui contrôlons tout le processus du début à la fin. Soit ils nous filent le RIC, soit ils se barrent. Et là, on sera heureux. C'est les deux options qui nous plaisent, c'est tout.
Les Gilets jaunes attendent maintenant la manifestation du 1er mai en espérant qu'Emmanuel Macron finira par entendre leurs revendications.
Une semaine après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, c'est à l'église Saint-Eustache à Paris qu'ont eu lieu les messes de Pâques hier. La file d'attente pour y accéder s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Saint-Eustache qui a accueilli la paroisse de Notre-Dame ainsi que l'organiste Pierre Lefebvre. C'est l'un des trois organistes de Notre-Dame et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a pu jouer hier. Reportage de Mathieu Mondoloni.
Quand Philippe Lefebvre s'assoit devant les impressionnants claviers de l'orgue de Saint-Eustache, c'est évidemment avec une pensée émue pour Notre-Dame de Paris.
On oublie un des mots les plus importants, c'est Notre-Dame. Et je pense que c'est ça qui a été ressenti dans le monde, c'est que cette cathédrale, c'est la cathédrale de tout le monde, c'est la nôtre.
L'organiste est désormais sans orgue, mais il a trouvé pour cette messe pascale un refuge bienvenu à Saint-Eustache.
Cette solidarité, c'est un élément fondamental et c'est ça la vie des musiciens. C'est que dans tous les moments, heureux et malheureux, il y ait ce partage. C'est ça notre vie.
Une immense solidarité qui a beaucoup touché Philippe Lefebvre.
On a reçu des milliers de messages, que ce soit des mails, des SMS, du monde entier.
La première fois qu'il a joué sur le grand orgue de Notre-Dame, c'était il y a 50 ans. Alors forcément, il rêve de retrouver au plus vite son instrument.
C'est une relation charnelle. Et c'est ce que tous les organistes qui viennent jouer à Notre-Dame depuis tant d'années ressentent. Et ça, c'est un endroit unique pour ça.
L'organiste ne sait pas précisément dans quel état il va retrouver son instrument. Il espère simplement pouvoir un jour poser à nouveau ses mains sur l'un des cinq claviers de ce grand orgue, considéré comme l'âme de Notre-Dame.
Et ce week-end, le ministre de la Culture, Franck Riester, a déclaré que Notre-Dame est quasiment sauvée. Il reste quelques points sensibles sur la voûte, mais tous les autres ont été sécurisés et stabilisés. En ce lundi férié, c'est une journée printanière, voire estivale, qui vous attend sur une grande partie de la France, avec des températures entre 15 et 22 degrés dans la matinée, jusqu'à 26 cet après-midi. En Ile-de-France, le ciel sera parfois couvert ce matin. Quelques averses dans l'après-midi sur le sud-est, le Poitou et du Limousin à la Normandie.